100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, l'insertion des personnes en situation de handicap, où en est-on en Europe ? Les disparités sont nombreuses, vous vous en doutez. Depuis plus de 40 ans, l'Italie et la Suède sont les meilleures, et notamment en matière d'accueil à l'école dans des classes ordinaires. En Europe centrale, la situation est beaucoup plus compliquée, et en France, le sujet a fait l'objet d'une conférence nationale la semaine dernière. Car 15 ans après l'adoption de la loi handicap, qui défend l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l'Hexagone est à la traîne. Un exemple, 40% seulement des enfants autistes sont scolarisés à l'école primaire, et les structures spécialisées manquent. La liste des difficultés est longue, à commencer par l'accès aux lieux publics. 3% du métro parisien seulement est accessible aux fauteuils roulants, contre 82% par exemple à Barcelone. Pour nous faire comprendre ces galères du quotidien, Lucie Bouteloup a choisi de suivre Franck Maille sur une journée. Il est handicapé des quatre membres suite à une maladie neurologique.
Trois fois par semaine, Franck Maille doit quitter Nanterre en banlieue parisienne pour se rendre à Paris. Première étape, aller jusqu'à la gare RER en fauteuil.
Là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a un trou sur le trottoir, donc qui n'est pas énorme, mais si vous ne faites pas attention, vous basculez. Et là, moi, je suis resté coincé. Donc dans ces cas-là, il faut lever les roues avant pour pouvoir franchir cet obstacle.
Nid de poule, changement de revêtement, pente trop raide ou voirie non entretenue, pour lui, chaque trajet peut vite se transformer en parcours du combattant.
Et puis il y a les cordes de chien. Bon, l'avantage, c'est que si vous roulez dedans, sur les quatre roues, vous avez des générations de bonheur.
Niveau accueil, accès RER A.
Arrivé à la gare, Franck doit maintenant se rendre sur le quai du RER. Et là encore, c'est toute une histoire. Pas question de monter dans le wagon sans qu'un agent ne vérifie au préalable que la gare d'arrivée est bien accessible. Des précautions nécessaires qui rallongent considérablement le temps de trajet.
Vous savez toujours quand vous partez, mais vous savez jamais quand vous arrivez. Le temps de rentrer dans la gare et d'accéder jusqu'au quai, quand ça tout va bien, c'est 10 minutes. Et quand tout va mal, ça peut être une heure, voire si l'ascenseur ne fonctionne pas, je rentre chez moi.
Aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau francilien, seules les lignes A et B du RER sont accessibles aux personnes handicapées, mais avec une assistance humaine. Quant au métro parisien, sur les 303 stations, seulement 9 peuvent être utilisées par des personnes en situation de handicap, soit 3% du réseau. S'il veut circuler dans Paris, Franck doit donc se contenter du bus ou du tramway. Autre cas d'école, faire ses courses. Et là encore, ça coince. Franck est au rayon surgelé face au grand frigidaire.
La difficulté de la chose, c'est déjà d'ouvrir la porte.
Déjà, j'y arrive pas.
Et là, je vais aller prendre une sélection traiteur qui est tout en haut et je ne peux pas le prendre. Donc, je suis assez limité dans mes choix où il faut que je demande à quelqu'un. En sachant aussi qu'il y a le rebord qui gêne l'approche avec mon fauteuil roulant.
Même histoire pour attraper les filtres à café situés au ras du sol ou les citrons bio disposés en hauteur du rayon fruits et légumes.
Aujourd'hui, on a encore des problèmes à vivre comme tout le monde dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est l'accessibilité pour tous. Accessibilité universelle.
En théorie, l'obligation d'accessibilité aux personnes handicapées s'applique à tous les établissements ouverts au public. Malheureusement pour Franck, beaucoup tardent encore à se mettre aux normes. Les contrevenants s'exposent pourtant à la fermeture de leur établissement, à une amende administrative et à devoir verser des indemnités pour discrimination pouvant aller jusqu'à 250 000 euros.
Trouver un logement adapté, c'est une autre des difficultés majeures pour les personnes handicapées. En Irlande, ce qui est déjà un parcours du combattant pour l'ensemble de la population, vire au cauchemar, voire à la quête de l'impossible pour les personnes en situation de handicap physique. Il n'y a quasi aucun logement adapté. En 2018, près de 450 personnes vivaient ainsi, soit chez leurs parents ou carrément en maison de retraite. Les explications de notre correspondante à Dublin, Emeline Vin.
La trentaine, Peter vit en fauteuil roulant. Pour se loger, il a fait une demande de logement social auprès de son conseil municipal, mais aucun appartement accessible n'est disponible. Peter travaille, mais sa seule option pour ne pas se retrouver à la rue, c'est de vivre en maison de retraite dans la banlieue de Dublin. Peter a refusé de témoigner au micro, il craint que cela n'aggrave encore sa situation. Mais il a saisi le National Advocacy Service, le défenseur des droits. Son cas n'est pas isolé, selon Garrett Walsh, responsable de la politique pour le NAS.
Dans certaines régions où il y a peu de services pour les personnes handicapées, il n'y a pas d'autre solution que d'aller en maison de retraite. Au début, c'est censé être temporaire, et puis elles y restent plusieurs années. Ça peut réellement affecter la confiance en soi, la capacité à s'intégrer dans la société, à tisser des amitiés. Les maisons de retraite, c'est pour les gens en fin de vie. Ce n'est pas approprié de vivre là pour des trentenaires, des quadragénaires. Oui, c'est sécurisé, mais c'est une prison dorée.
Chaque année, Garrett Walsh s'occupe en moyenne de 500 cas de personnes handicapées mal logées. Et parmi elles, plusieurs dizaines ont été contraintes, comme Peter, d'aller en maison de retraite. En prison, c'est un peu comme ça que se sentait Brendan Sinclair, 32 ans. Jusqu'à très récemment, jusqu'à ses 27 ans, il vivait encore chez ses parents. Longs cheveux bruns, tenue élégante, il est atteint d'un handicap moteur et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant.
J'avais beaucoup de mal à trouver des logements accessibles. Je ne pouvais pas me permettre de louer dans le privé. Les propriétaires n'acceptaient pas les aides au logement. Je dépendais du logement social. C'est très frustrant quand vous avez 25 ans, que vous vivez toujours chez vos parents. Alors que vous voulez faire comme tout le monde, vivre votre vie, voler de vos propres ailes, aller de l'avant, devenir quelqu'un. C'était pas facile, j'ai dû être patient.
Très patient. Au bout de 2 ans, grâce à l'association irlandaise des fauteuils roulants, il a pu bénéficier d'un logement transitoire.
C'est fait pour vous donner une idée de ce que c'est que de vivre tout seul. Mais pour moi, c'était juste un endroit où vivre. Et parce que c'est temporaire, vous ne pouvez pas poser vos valises. Vous n'avez aucune stabilité. Je voulais apprendre à conduire, partir en vacances. Ce genre de choses, ce n'est pas possible si du jour au lendemain, on peut vous dire « Désolé, vous devez quitter votre logement » ou « Un logement est disponible pour vous ».
Pendant ce temps, il s'inscrit sur les listes d'attente pour bénéficier d'un logement social. Il relance son conseil local plusieurs fois, sans jamais hausser le ton. C'est finalement 5 ans plus tard qu'il obtient les clés de son nouveau chez lui. Pourquoi est-il si difficile de se loger pour les Irlandais en situation de handicap ? Outre la crise du logement, qui touche toute la population, il y a tout simplement le manque de logements accessibles. Le ministère oblige les nouveaux logements sociaux à être accessibles aux visites pour les usagers en fauteuil, mais pas forcément habitables. La salle de bain souvent n'est pas adaptée, ou encore les fenêtres sont trop hautes pour être ouvertes et fermées à hauteur de fauteuil. Un scandale pour Tony Cunningham, directeur de campagne au sein de l'Irish Wheelchair Association.
Nous faisons du lobbying actif auprès du gouvernement pour que 7% des logements soient dessinés de manière accessible, de manière à ce que les personnes en fauteuil vivent dans le même quartier que tout le monde. Ce ne sont pas des logements réservés aux personnes en fauteuil. S'il n'y a personne sur la liste d'attente, n'importe qui peut vivre dans ces appartements avec davantage d'espace. Mais ce n'est pas de l'espace en plus, c'est de l'espace nécessaire. Ce n'est pas un luxe, ça devrait être obligatoire pendant la phase de dessin.
Les promoteurs tentent de rentabiliser l'espace au maximum. Or, construire et dès le départ une maison accessible coûte moins cher que d'adapter un habitat déjà existant. Rien que pour une salle de bain, les travaux de mise aux normes coûtent 70 000 euros. Pour Tony Cunningham, ce serait un investissement raisonnable compte tenu du vieillissement annoncé de la population irlandaise.
Et si le handicap n'en était pas un, vivre comme tout le monde, à savoir travailler, faire ses courses, aller à la salle de sport, c'est le pari qu'a fait le village d'Egvert en Suisse. Fondé en 61 par des parents d'enfants en situation de handicap, la bourgade en banlieue de Genève accueille exclusivement des personnes avec des déficiences intellectuelles. Mais elle ne fait pas que ça. À Egvert, les résidents peuvent aussi se former, travailler ou se présenter aux élections de la commune. C'est le reportage de Jérémy Lanche.
Un village de cartes postales, c'est le sentiment qui domine quand on arrive à Egvert, petit bout de campagne perdu au milieu des champs près de Genève. 137 villageois habitent ici, en plus des 20 personnes qui viennent y travailler la journée uniquement. Tous sont atteints d'une forme de déficience intellectuelle, que ce soit une trisomie ou des troubles du spectre autistique, et tous ou presque participent à la vie de la cité. Entre le travail à la ferme, la préparation des plats au restaurant ou l'accueil des clients à l'épicerie, il y a de la place pour tout le monde. Amir travaille à la boulangerie depuis maintenant plus de 2 ans et il l'assure, le regard des gens n'est pas le même qu'en ville.
Avec le handicap, on jette, c'est comme ça, c'est mettre de côté, moi pas d'accord avec ça, on vit en société. J'aime bien ici, c'est social, On a beaucoup de sport avec Émilie, avec Guillaume, basket, fitness.
Du sport, il y en a effectivement beaucoup. Egvert a même son propre gymnase. Aujourd'hui, c'est cours de basket pour les seniors.
Parcours, c'est Evelyne qui explique le petit parcours.
Allez. Alors, je m'appelle Guillaume Legrand. Et puis là, on est au cours de gym des aînés, en fait. Et l'idée, c'est de maintenir leur indépendance le plus longtemps possible. Alors, ce cours-là, c'est une fois par semaine. Mais dans le village, il y a environ 40 heures de sport toutes les semaines qui sont dispensées à tous nos résidents.
Autre particularité du village, sa gouvernance. Les résidents peuvent suivre une formation à la citoyenneté et être élus par leur pair dans l'assemblée des villageois. Elle décide des orientations à prendre en coordination avec la fondation responsable d'Egvert. Car bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans les 250 professionnels qui participent au bon fonctionnement du village. Infirmiers, éducateurs spécialisés, formateurs, la réputation d'Egvert dépasse les frontières. Olivier est venu de France avec sa fille Léa.
Voilà, je m'appelle Olivier Dardivillers et j'ai 3 enfants. Donc j'ai Léa qui a 23 ans, qui est comme vous le voyez, différente. En France, on a fait le parcours du combattant. Ça a été une catastrophe. Il y a même un médecin qui m'a dit « Emmenez votre fille à l'hôpital psychiatrique ». J'ai dit « Mais elle n'est pas folle, elle est autiste ».
Mais le village n'a pas vocation à devenir une ville. Pour entrer à Egvert, il faut patienter plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'une place ne se libère.
En Roumanie, l'année dernière, 4 personnes décédaient dans un centre pour handicapés mentaux suite à de mauvais traitements. Après ce scandale, le gouvernement a décidé de réformer son système de prise en charge, mais le chantier est immense. Pour les enfants, la loi a changé en 2016, mais il reste beaucoup à faire dans les écoles publiques pour améliorer l'accueil. Résultat, certains établissements privés montrent l'exemple et se sont concentrés sur l'accueil des enfants en situation de handicap. Reportage de Benjamin Ribou.
Et on reprend depuis le début. Si tu divises 10 par 1, on obtient combien, Georgiane ? 10, c'est bien.
Je suis la maman de Georgiane. Mon fils a une paraplégie spastique, il a presque 11 ans et il est ici depuis 2 ans. Là, il a informatique et il se débrouille tout seul, sans moi. Je reste avec lui en classe juste pour les maths et le roumain. Et je trouve qu'il progresse bien, c'est grâce à ses professeurs, à moi également, ainsi qu'à Anna, qui est son professeur de soutien. Avant, dans l'autre école, les autres enfants le fuyaient. Alors qu'ici, il n'est pas marginalisé, il est ouvert, souriant.
Cette école dont parle la mère de Georgiane, c'est Sfântu Iacob. Il y a même un ascenseur pour les fauteuils roulants, une rareté en Roumanie. En plus du professeur, un professeur de soutien aide l'enfant avec des besoins spéciaux à s'intégrer en classe, mais aussi dans les activités extrascolaires. Sfântu Iacob est un établissement catholique situé dans la petite ville de Kompolong Mouschiel. Ici, on accueille les enfants avec un handicap depuis une vingtaine d'années. Il fait figure d'exception dans le paysage roumain. Dans les centres pour personnes handicapées du pays, les mauvais traitements sont courants, comme l'a rappelé le scandale d'Ourlat l'an dernier. Après la mort de 4 personnes, il est désormais question de réformer le système de soins pour en finir avec les affaires de maltraitance à répétition. Madalina Tourza est la présidente de l'Autorité nationale pour les personnes handicapées. Elle vient de proposer la réforme et elle fait un constat très sombre de la situation dans les 442 centres pour adultes handicapés de Roumanie.
Ourlati n'est pas une surprise. La situation est extrêmement grave. Il y a 18 000 adultes handicapés qui sont enfermés dans ces centres, victimes de traitements inhumains et dégradants. On parle de personnes dans des cellules d'isolement, sous neuroleptiques et sous sédatifs prescrits à l'excès, attachées avec des cordes ou des menottes improvisées, mal nourries, vivant dans des conditions dignes du Moyen-Âge. Jusque-là, aucune autorité publique n'a reconnu tout ça, bien qu'il y ait eu des dizaines de rapports réalisés par la société civile, des dossiers auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Le problème est bien connu.
Sa réforme, Madalina Tourza veut l'accès sur la qualité des services à la personne dans ces centres. Elle-même, mère d'une fille de 15 ans atteinte de trisomie 21, elle a derrière elle plus d'une dizaine d'années d'activisme en faveur des droits des personnes handicapées. Mais les adultes handicapés ne sont pas les seuls à pâtir du système. Le système scolaire, lui, a été réformé dès 2016 pour accueillir les enfants souffrant de handicap. Mais il reste beaucoup à faire.
Dans le pays, les établissements spécialisés soulèvent un gros problème car en général, il s'agit simplement d'endroits où on laisse son enfant, sans oublier que des abus y sont commis. Heureusement, après des années de lutte, depuis 2016, la loi a été modifiée. Les enfants handicapés peuvent désormais intégrer eux aussi l'école classique. Le problème, c'est que l'école n'est pas préparée pour les intégrer. Il y a très peu de professeurs de soutien, seulement 1400 dans tout le pays, ce qui qui fait que dans des départements, il y en a un seul pour 150 élèves. Il n'y a pas de programme et de manuel scolaire adapté. Les professeurs non plus ne sont pas préparés.
L'école publique accueille aujourd'hui 8000 enfants handicapés ou ayant des besoins dits spéciaux. Un système qui pourrait s'inspirer du fonctionnement de Svantu Jakob. L'établissement accueille actuellement 39 enfants avec des besoins spéciaux, intégrés en classe avec les autres. L'école a été créée dans les années 90 par une congrégation religieuse catholique. Dès le début, elle s'est proposée de lutter contre l'exclusion en intégrant tous les enfants. Un discours qui séduit les professeurs. Paulette, Juliana.
Je me suis toujours dit que si je n'étais pas capable de travailler avec tous les enfants, c'est que je n'étais pas une bonne prof. Tu dois être capable de trouver ce qui est bon en chaque enfant. Certains ont voulu nous coller une étiquette d'école catholique pour enfants malades. Non, il s'agit juste d'enfants spéciaux qui ont besoin de nous et c'est à nous de faire en sorte de les aider. Quand je vois le rejet auquel ils font face dans les autres écoles...
La congrégation a aussi créé un centre de jour, le centre Vladimir Gika. Celui-ci est ouvert aux enfants de l'école, mais pas seulement. Ils y font de la kiné, de l'orthophonie, ainsi que de la thérapie comportementale. Ionella vient y récupérer son fils, atteint de trisomie 21. Il a aujourd'hui 15 ans. Il est entré à l'âge de 8 ans à Svantu Jakob.
Dans l'école d'avant, mon fils ne faisait rien. Lorsque je demandais ce qu'il faisait, on me répondait « Il est sage, il est sage. » En tant que parent, on attend autre chose, on veut qu'il progresse. Alors qu'à Svantu Jakob, il a eu un parcours adapté afin qu'il travaille et qu'il progresse, qu'il sache lire correctement, etc. Son institutrice m'a beaucoup aidée, notamment pour que je sache comment travailler avec lui. La communication est excellente avec les professeurs, ce qui est très important pour nous, car on est parfois démunis. Lui veut désormais devenir cuisinier. Pour nous, c'est important qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, comme n'importe quel enfant.
L'école Svantu Jakob dispose désormais d'une solide réputation dans la ville de Kampulong, celle d'une école ouverte à tous et où la tolérance prime. La congrégation a aussi ouvert deux autres structures ailleurs dans le pays. L'inscription est accessible, moins de 200 euros par an par enfant.
Et sur un tout autre sujet, direction la République d'Irlande avec le portrait de Marie-Lou MacDonald. En reportant les législatives, la députée européenne a réussi à dédiaboliser le Sinn Féin, longtemps vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Les explications de Béatrice Léveillé.
Le discours de gauche de Marie-Lou MacDonald a séduit un quart des électeurs, parmi eux beaucoup de jeunes, un succès auquel son parti ne s'attendait pas, un succès personnel pour Nathalie Seban, spécialiste de l'Irlande et professeure à l'université Sorbonne Nouvelle.
Oui, c'est un succès personnel d'une Irlandaise qui redonne un peu une nouvelle image du Sinn Féin, parce que jusque-là, le Sinn Féin, c'était les accents nord-irlandais de Martin McGuinness, de Gerry Adams. Elle, elle est du Sud, elle est diplômée de Trinity College. Elle n'a jamais manifesté ouvertement de lien avec l'IRA, même si il y avait une interview en 2013 où elle avait dit qu'elle pouvait comprendre l'usage de la force armée pour se libérer de la présence britannique.
La réunification de l'Irlande a toujours été le programme du Sinn Féin en République d'Irlande, comme en Irlande du Nord. Et Marie-Lou MacDonald est convaincue qu'un référendum sur la réunification est imminent.
Il n'y a pas que le résultat des élections, il y a le Brexit, il y a le changement démographique. Toute la classe politique le sait sur l'île. C'est vraiment irresponsable de la part des hommes politiques de tous les bords de faire la politique de l'autruche. Ils doivent se préparer en Irlande et à Londres parce que les changements constitutionnels arrivent.
Marie-Lou MacDonald aura du mal à former un gouvernement. Les partis traditionnels ne veulent pas s'allier avec le Sinn Féin, qui a des liens historiques avec les terroristes de l'IRA.
Stephen Elsley était à la réalisation aujourd'hui pour nous écouter partout. Abonnez-vous à notre podcast Accent d'Europe sur RFI.fr. À demain.